Europe 1, Culture Média.
L'appareil saisi s'apprêtait à décoller de Punta Cana et devait prendre la direction, eh bien, la région parisienne.
La cocaïne circulait par centaines de kilos à bord d'un avion privé.
Vous n'avez pas seulement transporté 10 ou 20 kilos dans l'avion, vous avez mis 700 kilos à l'intérieur.
Quand on dit dire cocaïne, évidemment, il y a herbe, il y a surtout cocaïne.
Et il sera là, l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne 2013, un jet privé, 700 tonnes de drogue bloquées sur l'aéroport, une arrestation, 20 ans de prison. Non, car s'ensuit une évasion rocambolesque depuis la République dominicaine. Franck Collin en personne sera avec nous, il raconte tout dans une série documentaire sur Canal+, réalisée par Stéphane Ribojade, lui aussi dans ce studio. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, comme d'hab, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, une BD sur un couple français mythique, Jean Marais et Jean Cocteau. Il y aura évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage dans quelques instants, le journal des médias avec Rémi Jacob. Notre infomédia, on va parler d'une brigade extraordinaire. Non, il ne s'agit pas du énième reportage sur des gendarmes en patrouille à la sortie des boîtes, mais d'un documentaire sur un restaurant dont l'équipe est majoritairement constituée de trisomiques 21. Et nous verrons avec Aurélia Bloch, réalisatrice, et Cyril Adida, membre de la brigade, qu'il y a enfin du mieux sur le terrain de l'inclusion. Et puis dans la partie culture, l'humoriste Manu Payet pour son nouveau spectacle Emmanuel 2, toujours le fauteuil en osier, comme dans la grande saga Emmanuel, mais comment dire, la paternité l'a un peu marqué, c'est lui qui le dit. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour Rémi.
Et je salue Anissa. Bonjour.
Salut Philippe.
Salut Anissa. Rémi, au sommaire de votre journal des médias.
Toutes les coulisses de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron avec, dans un instant sur Europe 1, le directeur de l'information de TF1. Également la langue des signes qui n'est pas assez visible sur le petit écran. Et puis un invité très très étonnant ce soir dans Top Chef.
Mais d'abord, on commence comme chaque matin par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
C'est France 3 qui est en première position avec Le Village des Endormis, 4,3 millions de téléspectateurs, soit 21,2% du public pour ce téléfilm policier avec Lola Devers. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta, 3,5 millions de téléspectateurs, soit 18,9% de part d'audience, un score en hausse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Le Bonheur des Uns, 1,6 million de téléspectateurs et 8,2% de part d'audience pour ce film au casting 5 étoiles, avec notamment Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti ou encore François Damiens.
Europe 1, le journal des médias.
On attaque forcément ce journal avec l'événement du jour, l'interview télévisée d'Emmanuel Macron.
Et le chef de l'État qui répondra aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier, ça sera aux 13h de TF1 et France 2. En direct de l'Élysée. Alors, beaucoup de questions évidemment autour de cette interview et notamment une qui est largement revenue sur les réseaux sociaux. Pourquoi le 13h et pas le 20h? Je vous propose d'écouter les explications de Thierry Tuilier. C'est le directeur général adjoint du groupe TF1 en charge de l'information. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
On a compris que du côté de l'Élysée, il y avait un problème d'agenda. Hier mardi, il y avait toute une série d'entretiens institutionnels qui se sont terminés d'ailleurs par la réception des parlementaires à l'Élysée à 20h. Donc impossible de faire cette interview pendant le 20h. Vous avez le déplacement du chef de l'État jeudi et vendredi à Bruxelles. Donc c'était très compliqué de trouver un créneau à 20h. Surtout que je pense que le président ne voulait pas être trop près, donc le mercredi 20h, de la mobilisation de la journée de grève et d'action des syndicats.
Thierry Tuilier qui insiste également sur le fait que le 13h est une édition qui touche un très large public. Alors, je lui ai également demandé d'expliquer aux auditeurs d'Europe 1 comment se concoctait concrètement en coulisses une interview si particulière.
Hier après-midi, mardi, nous avons réuni le patron du service politique, le rédacteur en chef du 13h et Fabien Damiens, qui est le patron de la chaîne LCI, pour, avec Marie-Sophie, commencer à lister les thèmes et les questions. Dans la foulée, on a ce qu'on appelle une réunion de production pour la réalisation. Et dans la foulée aussi, nous avons travaillé avec nos confrères de France Télévisions pour joindre nos questions, parce qu'il faut qu'on travaille sur un document commun. Il est hors de question d'avoir nos questions d'un côté, les leurs de l'autre, sinon ce n'est pas possible, ça se verrait beaucoup, les téléspectateurs n'y trouveraient pas leur compte.
Thierry Tuilier, le patron de l'information de TF1 au micro d'Europe 1 Culture Média, a noté qu'en plus du JT de 13h de TF1 et France 2, cette interview sera également retransmise sur les chaînes info, notamment BFM TV et CNews, qui seront en édition spéciale à partir de midi.
Et justement, concernant les chaînes info, je raconte les coulisses de Culture Média. Hier, on s'est appelé, Rémi, et je vous ai confié une mission, celle de nous dire si ces chaînes d'info concurrentes doivent payer ou non pour diffuser l'interview d'Emmanuel Macron prévue pour la 1 et pour la 2.
Ah oui, excellente question.
Hein. Merci.
Vous posez toujours d'excellentes questions,
d'ailleurs, Philippe. Évidemment.
Et je dis pas ça parce que vous êtes mon chef.
Non, bien sûr.
Et la réponse est oui à cette question. Hein. Effectivement,
elles doivent
payer une somme et elles doivent s'acquitter plus précisément d'une participation, hein, une quote-part aux frais de production. Mais en échange, elles peuvent donc diffuser le signal sans décalage, hein, ça c'est important, en temps réel sur leur antenne.
On a appris cette nuit la disparition d'Emmanuel Motaz, l'interprète de Premier Baiser.
Premier baiser échangé sur une plage.
Ça vous rappelle des souvenirs, Anissa.
Premier amour.
C'est Anissa en mode karaoké.
Et c'est le producteur Jean-Luc Azoulay qui a annoncé cette triste nouvelle. Elle s'est éteinte à l'âge de 59 ans. Sorti en 1987, le titre Premier baiser s'était vendu à 700 000 exemplaires et il était devenu, vous le savez, 4 ans plus tard, le générique du célèbre sitcom portant le même nom.
Voilà, puis on salue la famille d'Emmanuel, Jean-Luc Azoulay, Claude Berda et toute la grande famille d'AB Productions. On va parler maintenant d'accessibilité avec ce constat. La langue des signes n'est pas assez présente à la télévision.
Oui, c'est l'un des points évoqués hier lors d'un colloque organisé par l'ARCOM. L'ex-CSA avait réuni plusieurs intervenants à l'occasion de la semaine de la langue française. Parmi eux, Ronit Leven, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elle est sourde et elle déplore que la langue des signes soit encore si peu visible à la télévision. Elle s'explique au micro d'Europe 1 Culture Média. Alors, elle s'exprime en langue des signes. Je précise que j'avais à mes côtés une interprète. C'est donc la voix de l'interprète qu'on va entendre, mais c'est bien le message de Ronit Leven et vous allez voir, elle est très remontée.
On nous met dans le coin en bas à droite, en tout petit. Moi, j'ai calculé une fois, c'est 1/40 de l'image. C'est quand même impossible pour nous de comprendre parce que c'est tout petit. Il faudrait qu'on soit collé à la télé, on ne voit rien. Donc, on se moque un peu de nous dans ces cas-là. On est là pour faire joli en fait, en disant bah si, il y a de l'accessibilité, mais nous, on ne comprend pas. Au niveau de l'ARCOM, heureusement, il y a quand même des préconisations qui sont faites pour les chaînes. 1/3 de l'écran est préconisé. C'est pas encore effectif, mais bon. C'est vrai que les gens ne pensent pas à se dire, on pourrait faire le contraire. La langue des signes, elle a besoin d'être visible. L'oral, on peut le mettre en voix off, il n'y a pas de souci. La personne centrale, ce serait la personne qui s'exprime en langue des signes, et on mettrait une voix off ou un interprète qui ne gênerait personne dans un petit coin. Donc je lance l'idée, voyons si ça peut faire évoluer les choses.
Ronit Leven qui s'exprime avec son interprète Audrey, que je remercie au micro d'Europe 1 Culture Média. Ronit Leven qui me confiait également qu'elle a 2 enfants sourds et que les programmes traduits en langue des signes ne sont pas du tout adaptés pour eux. C'est toujours de l'info, des discours politiques, mais jamais, jamais des programmes pour la jeunesse.
Je souris parce que je me dis que vous allez nous parler de Joey Starr. Joey Starr, j'ai lu la presse qui participe ce soir à Top Chef sur M6.
Ah oui, Joey Starr qui devient juré le temps d'un épisode. Alors, c'est pas sa facette la plus connue, mais c'est un véritable amateur de cuisine. Oui. Et il a un petit péché mignon, un aliment qui le fait, vous allez voir, totalement craquer.
Et pour le premier défi, 2 binômes vont devoir rendre gastronomique le plaisir coupable de Joey Starr, qui est également le péché mignon numéro 1 des Français, le fromage fondu.
Le fromage fondu, ça m'élève. L'odeur, le crépitement, c'est autant olfactif que visuel. Là, on parle de pulsion. Tout est possible avec le fromage, donc voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer, quoi. Je suis prêt à me faire cueillir.
Le fromage fondu, mais qui peut résister au fromage fondu, n'est-ce pas, Philippe?
Personne.
On est d'accord.
Et Joey Starr, c'est un amateur de cuisine, il était venu en parler, il avait même publié un livre avec les meilleures recettes.
Exactement.
Et d'ailleurs, Joey Starr qui vient de réaliser le menu du magnifique restaurant Bleu Coupole, c'est en haut du printemps, sous la coupole aux vitraux du printemps, menu complet avec la soupe de crabe ou encore un pain perdu au rhum.
Ça, c'est de l'info média.
Mais vous avez raison de le préciser, Joey Starr, que vous découvrirez en tout cas ce soir dans ce rôle de juré. Et c'était pas gagné au départ, comme l'explique le présentateur de Top Chef, Stéphane Rothenberg.
La première fois qu'il arrive, la manière dont il me parle, c'est comme un test. Le petit gars en costume, là, il va pas commencer à m'embêter. Mais ensuite, on a à l'évidence parlé de choses qui nous rassemblaient, c'est-à-dire la cuisine. Et là, j'ai vu quelqu'un qui, alors déjà, une vraie gourmandise, un vrai palais, et la volonté de respecter le travail des candidats, c'est-à-dire de faire une vraie analyse. Donc vous allez le voir, c'est un vrai petit moment de télévision. Moi, je suis ravi de l'avoir accueilli dans la grande famille de Top Chef.
Stéphane Rothenberg au micro d'Europe 1 Culture Média, et cet épisode est diffusé ce soir, on le rappelle, à 21h15 sur M6.
Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec l'info média du jour.
Hier, c'était la journée mondiale de la trisomie 21 et pour l'occasion, Gulli diffuse ce soir en prime time La Brigade Extraordinaire. C'est un documentaire qui raconte le quotidien du Reflet, un restaurant situé en plein cœur du Marais à Paris. La particularité de ce restaurant, sur ses 13 employés, 8 sont porteurs de trisomie 21. Employés passionnés par leur travail, relations pas toujours simples entre collègues, élections de délégués du personnel et histoire d'amour, on y découvre le fonctionnement d'une équipe pas comme les autres et l'accueil chaleureux du restaurant qui tranche avec le mythique garçon de café parisien. Ce documentaire a d'ailleurs été primé au Festival de Luchon. Bonjour Aurélia Bloch.
Bonjour à vous.
Vous êtes l'autrice, la réalisatrice de ce documentaire. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1.
Merci.
Bonjour Cyril Adida.
Oui, bonjour.
Vous avez 38 ans, vous êtes serveur au Reflet, mais également acteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous, Cyril. Pour
okay.
vous, qu'est-ce que c'est être trisomique?
Le trisomique, écoutez, je suis toujours de mon... le trisomique Fatia, c'est le... Je suis toujours comme ça.
Mmh.
Je suis toujours... J'ai quitté de ma jeunesse, mmh. de mon enfance,
mmh.
de mon souvenir d'enfance.
Mmh.
Et... J'étais toujours comme ça, quoi. Je suis très heureux comme ça, c'est tout.
Quelle est la différence, selon vous, entre une personne trisomique et une personne qui ne l'est pas?
Ben, je connais quelques styles, quelqu'un, mais je peux vous dire n'importe quoi dans le truc.
Mmh.
C'est le... La personne réelle, c'est une femme extraordinaire, mais c'est dans la série française, mais je peux vous dire de suite.
Cyril, la différence, toi, entre toi, comme tu as ce petit chromosome en plus, et les gens qui oui. n'ont pas ce chromosome en plus. Tu sais, tu travailles avec des ordinaires et des extraordinaires. C'est oui. quoi la différence? Il y en a une, il n'y en a pas. Quelle est la différence?
La différence, c'est à peu près... Que tu as dit à l'instant, Auréa.
Toi, tu es extraordinaire.
Moi, oui. Plutôt moi.
Auréa Bloch, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film? Comment avez-vous entendu parler du Reflet?
Alors, j'ai eu envie de faire ce film parce que j'y suis allée plusieurs fois, déjeuner. Et une fois qu'on met le pied dans ce restaurant, on n'a pas envie de le quitter. Parce que dans cette société qui est faite de faux-semblants, où on ne se dit pas les choses vraiment, eh ben, dans ce restaurant au Reflet, on se dit les choses sincèrement. Et la sincérité, elle plane partout dans ce restaurant.
Alors je précise que ce n'est pas non plus, comment dire, ce qui est très intéressant dans le fonctionnement de ce restaurant, c'est que ce n'est pas une association, c'est une entreprise. Il ne s'agit pas de faire des bons sentiments, ce n'est pas du béni oui-oui, voilà le mot que je ne trouvais pas, mais il s'agit de faire des bons plats.
Exactement. L'idée, c'est que... Cyril, comme les autres de la brigade, ils ont un salaire, un vrai.
Un vrai salaire, oui. Oui.
Alors, juste la petite différence, c'est que tu ne travailles pas 35 heures, mais 21 heures par semaine.
C'est ça, oui.
Et mmh. voilà. Sinon, il a un SMIC horaire avec des mmh. pourboires.
Oui,
quand il fait
fin,
bien son boulot.
Oui. Je regarde de mon argent poche, oui.
Alors, d'ailleurs, je vais montrer un extrait. On va entendre Redouane, il est cuisinier. Il attend que le patron Olivier arrive. Il est là pour lui demander une petite faveur et il n'est pas là pour rigoler.
Je veux te demander un truc.
Oui.
Parce que mon cousin va boxer samedi. Je ne peux pas travailler samedi soir.
Ah si.
Je peux pas, j'ai un empêchement là.
Non, Redouane, t'es revenu déjà la semaine dernière.
Je sais.
T'étais pas là à cause des vacances,
sais,
pendant
je sais, je te comprends, parce que j'ai mon cousin, il va bosser. Je peux pas dire non.
On va en parler, Redouane, je pense pas. Tu vas venir bosser, Redouane. La semaine dernière, t'es pas venu bosser.
Je sais, allez-y.
Mais Redouane, c'est une entreprise ici.
Je sais.
T'es pas là à cause des vacances.
Cyril Adida, il est sympa, le patron, Olivier.
Alors, quand j'entends sa voix. Je pourrais dire n'importe quoi, mais oui.
La sincérité.
Ouais. Vous travaillez depuis combien de temps au restaurant Le Reflet, Cyril?
En 2009, à peu près.
2009. Et vous y êtes heureux?
Toujours, toujours.
Qu'est-ce qui
oui.
vous plaît dans cette ambiance, dans ce restaurant? Qu'est-ce que vous aimez?
Un peu tout, un peu tout. C'est l'ambiance,
mmh.
L'équipe.
Mmh.
et le entourage autour de nous.
Ouais. Et il y a même des élections de délégués du personnel. Nous, dans notre équipe, on a Jérémy Hébert, le réalisateur, qui a été élu. Chez vous, qui a été élu délégué du personnel?
C'est Redouane, c'est lui qui a été élu.
À quoi ça sert un délégué du personnel dans une entreprise comme ça, où tout le monde a l'air de bien s'aimer, bien s'entendre?
Oui, c'est à peu près ça. C'est un peu tout. C'est des mélanges. Le professeur. Comment on dit?
Le directeur.
Le directeur, mmh. Oui. Ou.
Les employés, les salariés.
Oui, c'est ça, les salariés, les trésoriers.
Aurélia Bloch, votre documentaire nous fait découvrir des personnalités très très fortes. Il y a Eurydice, elle est passionnée de cuisine. Elle passe son temps libre à noter des recettes pour les proposer aux deux chefs du restaurant. Il y a plein de personnages comme ça, truculents, on va entendre des extraits. Mais racontez l'effet que ça vous a fait, cette galaxie.
Alors, Eurydice, alors quand elle fait ses petits cahiers de recettes, mmh. C'est ce qu'elle appelle son télétravail. Mmh. Parce qu'elle a du télétravail et elle est très consciencieuse. Tu l'as déjà vu, son carnet de recettes? C'est incroyable.
J'ai vu ce moment-là, oui.
Elle est passionnée de cuisine. Inès, elle est flamboyante. Elle a beaucoup d'humour. Et puis, c'est rare de rencontrer des gens qui ont un tel aplomb et en même temps, qui ont cette petite folie et qui nous fait rire tout le temps parce qu'elle a envie de faire rire, elle partage ça.
Oui, oui. C'est ça. Oui.
Et vous savez quoi, Inès, on va l'entendre, on va entendre des interactions. C'est passionnant, la brigade extraordinaire, c'est ce soir sur Gulli à 21h. Ça raconte la vie d'un restaurant de Paris qui s'appelle Le Reflet. On est avec Cyril Adida qui est serveur au restaurant, Aurélia Bloch qui est la réalisatrice de ce documentaire. Culture Média continue sur Europe 1.
Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec l'info média du jour.
On parle de ce restaurant, Le Reflet, qui a donné lieu à un documentaire, La Brigade Extraordinaire. C'est sur Gulli ce soir à 21h. On est avec Cyril Adida, qui est serveur dans ce restaurant. Il a une particularité, je vous laisse dire cette particularité, Aurélia Bloch. C'est vous la réalisatrice de ce doc.
Et Cyril a une particularité?
Non, le restaurant.
Ah, le restaurant. Ah oui, c'est alors.
Ça me fait plaisir.
On y mange très très bien. Ouais. Ça, c'est une particularité. La deuxième particularité, c'est que l'équipe est composée d'une brigade extraordinaire de porteurs de trisomie 21.
Alors Cyril, vous êtes un peu le sage de la bande. Jamais vous ne haussez la voix. Vous dites toujours des choses justes, des choses intelligentes, avec beaucoup de douceur. Par exemple, au moment du tournage, alors je dois préciser qu'au moment du tournage, vous étiez en couple avec Inès. Et un matin, il y a Inès qui arrive, elle participe avec le patron, c'est Olivier, à une dégustation de champagne. Sauf que vous savez comment ça se passe, les dégustations, il faut recracher. Mais elle ne recrache pas comme prévu, elle boit le champagne, elle goûte un deuxième verre, elle ne crache toujours pas. Alors Cyril, ça vous inquiète, et vous lui en parlez gentiment, mais ça agace Inès. On écoute.
Cyril, là tu mélanges, là. On est au travail. Tu vois pas qu'on est au travail, là? Tu mélanges, là.
Tu parles de quoi?
Non, c'est celle qui mélange entre l'amour et... Oui, enfin, qu'on est amoureux et travail. Les mélanges.
Moi, c'est à peu près la même chose avec toi, Inès. On mélange pas avec le vin et le travail.
C'est émouvant de voir cette séquence. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, j'aimerais bien dire quelque chose avec ça. Je mélange pas avec le travail et le... Je mélange pas avec le travail et le vin. Mais ça, c'est pas pareil. C'est un peu différent. La première phrase qu'elle a dit, Cyril, tu mélanges le sentiment et le travail. Et là, c'est pas vrai, c'est faux.
On a compris. Vous n'habitez plus chez vos parents, Cyril?
Non.
Non, vous êtes content de plus habiter chez vos parents?
Je suis toujours avec eux.
Ouais.
Derrière moi, dans ma vie... De ma passé, de mon souvenir. Mmh. Et là, maintenant, que je suis beaucoup grandi, j'habite tout seul de mon foyer, ma nouvelle vie.
Vous disiez, pendant la pause, vous disiez, moi j'aime les gens, j'aime les autres et j'ai un cœur d'artichaut. Ça veut dire quoi avoir un cœur d'artichaut?
Le cœur d'artichaut, c'est une façon de parler, sa façon à dire, sa façon à dire des choses. Pour avoir un cœur artichaut, j'aime les autres, j'aime les gens, j'aime tout le monde.
Vous avez un travail, on l'a dit, un studio, une vie amoureuse. Vous allez même boire des coups en terrasse le soir avec votre ami Redouane. Et on va vous entendre, vous êtes quasiment en train de draguer la serveuse. On écoute.
Madame, je veux te demander un truc. En fait, parce que mon pote m'a dit, un jour je mange avec toi ici.
Pour c'est deux. Comment? J'ai pas
pas compris.
Parce que mon pote et moi, je veux t'inviter ici. Oui. Moi, j'ai ensemble.
Ah, mais je peux pas.
Parce que je sais, t'es déjà travaillé et tout ça. Et ça me fait plaisir. J'adore cette femme, voilà.
Je veux chanter tous les jours pour les femmes.
Madame, je veux te montrer. Franchement, t'es très belle.
Cyril, on vous voit draguer la serveuse. Ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux d'une personne qui n'est pas trisomique?
Oui, mais écoutez, c'est pas la même personne que j'ai draguée, cette personne-là. Elle travaille dans le service à notre place. Nous, on bosse de l'autre côté. Mmh. Et que nous sommes tombés par hasard sur les terrasses, sur le café. On ne savait pas tous les deux, entre Redouane et moi. On posait des questions entre nous. Et après, en taille minute, on a envie de draguer. Voilà.
Vous aviez envie de draguer. Ouais. Mais parce qu'elle était jolie en même temps.
Elle est très très belle, elle est très jolie.
On la voit dans le doc qui passe ce soir, La Brigade Extraordinaire. Aurélia Bloch, ce doc est diffusé en prime time sur Gulli. Les conversations du papotin sont devenues un rendez-vous incontournable de France 2. Est-ce qu'il y a enfin du mieux au niveau de l'inclusion, sur l'inclusion au niveau médiatique?
C'est une bonne question. Moi, je salue en tout cas l'audace de Gulli d'avoir pris ce film et d'y avoir cru jusqu'au bout. C'est rare parce qu'on l'avait présenté à d'autres chaînes et voilà, Gulli a eu un coup de cœur et a eu aussi cette ouverture d'esprit pour l'acheter, le prendre et le diffuser. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est des autres chaînes.
On ne va pas citer les autres chaînes, mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est quel a été l'argument des autres chaînes pour refuser ce genre de documentaire.
J'ai pas du tout envie de balancer, mais il y a
non, on ne donnait pas les noms des chaînes, mais l'argument.
J'ai
ce qui m'intéresse, c'est l'argument.
J'ai entendu dire qu'il y avait déjà des programmes sur le handicap.
Et d'accord. Donc là, c'est juste, il y en a trop, il vaut mieux qu'il y en ait trop plutôt que pas assez. Mais ce n'était pas que ça intéressait pas les téléspectateurs.
Je trouve ça. Enfin, le handicap est multiforme, il est partout, il peut être invisible, il peut être visible. Et je pense que l'inclusion est indispensable pour qu'on se comprenne et qu'on s'entende tous. Mmh. Et c'est pas un argument pour moi, en tous les cas.
Le chantier est considérable. En 2001, je cite les chiffres du CSA ou de l'ARCOM, je ne sais plus quelle appellation avait l'organisme, moins de 1% des personnes représentées à la télévision étaient en situation de handicap.
Il y en a plus, parce qu'il y a plein de handicaps invisibles.
Ouais.
Je suis sûre que dans votre entourage, vous avez des gens qui ont des formes d'handicap qui ne sont pas forcément reconnues, mais qui sont des entraves à être heureux dans la vie.
Cyril Adida, vous n'êtes pas seulement serveur, vous êtes aussi comédien. Où est-ce qu'on peut vous voir?
Alors, je suis un acteur, je suis un comédien, je suis un danseur aussi, de la compagnie Les Toupies, Les Mythes de Rien.
Merci d'avoir été avec nous. Vous vouliez ajouter quelque chose, Aurélia?
Oui, juste Les Toupies, c'est une compagnie inclusive de théâtre. Et
oui, sur le théâtre.
Ils font un boulot de dingue. Et puis surtout, c'est un très bon danseur.
Je suis un bon danseur aussi en même temps.
Si vous le dites, je vous crois. Merci beaucoup, Cyril Adida. Je rappelle que vous travaillez au Reflet à Paris. Je ne le dis jamais, mais là, je le dis. C'est 11 rue de Braque, c'est à Paris, 3e. Merci, Aurélia Bloch, d'avoir réalisé ce documentaire, La Brigade Extraordinaire, qui passe ce soir à Gulli à 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Et Culture Média continue dans un instant sur Europe 1. Vous vous rappelez de l'affaire Air Cocaïne? C'était en 2013. 700 kilos de drogue retrouvés dans un jet privé français à Punta Cana. Et bien, c'est l'objet d'une nouvelle série documentaire ce soir sur Canal+. On sera avec Franck Collin, l'un des cerveaux de ce voyage, et le réalisateur Stéphane Ribaujade.
Et on retrouvera également Bruno Donnet et son cerveau pour ses télescopages.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1 avec vos invités médias dans un instant, Philippe Vandel.
Oui, dans un instant, nous sommes avec le réalisateur de la nouvelle série documentaire de Canal+, rien que le titre dit tout, Air Cocaïne. Le réalisateur, c'est Stéphane Ribaujade, et le cerveau de cette affaire, c'est Franck Collin. Il est là, ils sont déjà là dans ce studio. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur la communication de Marine Le Pen, car vous avez été frappé par la manière dont elle a tout récemment utilisé sa grande expérience.
Exactement. Vous le savez, Philippe, Marine Le Pen est une femme d'expérience. Elle est rompue depuis les lustres au fonctionnement des médias. Elle en connaît parfaitement bien tous les rouages. Les rouages et les pièges. Elle sait donc notamment que les journalistes sont des gens pressés de recueillir avant les autres, et parfois même un peu avant l'heure, les informations. En ce moment, par exemple, sur l'autel de la réforme des retraites plus qu'impopulaire, la séquence politique est paraît-il, favorable au Rassemblement national. Du coup, les journalistes questionnent les ambitions de Marine Le Pen. Ils veulent savoir ce qu'il adviendrait de son sort au cas où une dissolution venait à se produire. Et c'est ce qu'a fait hier matin Sonia Mabrouk, hein, ici même, sur Europe 1. Elle a demandé à Marine Le Pen ce qu'elle ferait si sa formation politique venait à remporter d'hypothétiques législatives.
Si nous gagnons les élections législatives, il y aura un Premier ministre au Rassemblement national.
Marine Le Pen a alors répondu mais elle n'a pas cité de nom. Sonia Mabrouk l'a alors relancée et questionnée un peu plus directement.
Et pourquoi c'est pas vous le sujet.
Et pourquoi pas Marine Le Pen, Première ministre. Et c'est à ce moment-là, Philippe, que l'expérience de Marine Le Pen a parlé.
Mais parce que peut-être je suis appelé à d'autres responsabilités.
Elle a évoqué d'autres responsabilités sans jamais les nommer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que comme elle est très expérimentée, elle sait qu'on ne se déclare pas candidate à une présidentielle 4 ans avant l'échéance. Ça ne sert à rien, ça ne serait à même à peine repris et ça n'intéresse personne. Du reste, avant-hier, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, alors qu'un journaliste de BFM TV était en train de l'asticoter pour savoir si oui ou non, elle serait encore candidate le prochain coup.
Il y aura un bulletin Marine Le Pen en 2027, donc c'est sûr.
Elle lui a répondu, on ne peut plus clairement, que c'était pas une femme politique aussi expérimentée qu'elle qu'on allait apprendre à faire la grimace.
Enfin, vous n'allez pas me faire dire aujourd'hui si je serai candidate ou pas, vous êtes gentil, j'ai trop d'expérience pour ça.
Eh oui, mon petit bonhomme, c'est pas BFM TV qui va faire dire à une femme politique d'expérience si elle sera impétrante dans 4 ans. La présidentielle, on y pense tous les jours, mais on n'en parle jamais. C'est une règle d'airain. Alors, j'ai beaucoup aimé ce petit épisode-là, Philippe, car Marine Le Pen n'a pas menti. Non, en effet, ce n'est pas BFM TV qui lui a fait dire qu'elle serait candidate en 2027, c'est elle qui y allait toute seule. Écoutez un peu ce qu'elle a trouvé le moyen de répondre à la question « Que faudra-t-il faire si la réforme des retraites est adoptée ?»
Alors du coup, qu'est-ce qui reste ?
Voter Marine Le Pen en 2027 ?
Voilà, faudra voter Marine Le Pen en 2027. Et comme elle a beaucoup trop d'expérience pour se laisser piéger, elle l'a même répété une seconde fois.
Soit la motion de censure est votée, soit le Conseil constitutionnel censure, soit... Eh bien, il faudra voter pour Marine Le Pen en 2027.
Eh oui, Philippe, hein, l'expérience médiatique est une alliée puissante dans la vie politique.
Enfin, vous n'allez pas me faire dire aujourd'hui si je serai candidate ou pas, vous êtes gentil, j'ai trop d'expérience pour ça.
Même si, quelquefois, l'impatience vient s'amuser à coller des bâtons dans les roues à l'expérience, même des plus expérimentés, auxquels on ne la fait pas.
Merci beaucoup, Bruno Donnet, à qui on ne la fait pas. À demain, Bruno.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h. Philippe Vandel avec ce soir un documentaire à ne pas manquer sur Canal+.
Bonjour Franck Collin.
Bonjour.
Je ne vais pas vous présenter, je vous laisser le faire vous-même.
Je m'appelle Franck Collin. Je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaine. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé.
Ça démarre très fort et ce n'est pas un film, c'est un documentaire co-réalisé par Stéphane Ribojat. Bonjour.
Bonjour.
Votre actu, c'est ça, Air Cocaine, l'histoire vraie d'une affaire stupéfiante. Ça passe ce soir sur Canal+, à 21h, 4 épisodes de 52 minutes et sur MyCanal. Et pour la première fois et en totale exclusivité, Franck Collin, vous êtes entre guillemets le cerveau de l'affaire, vous exprimez dans un documentaire. On peut résumer les faits, ça démarre le 20 mars 2013, Stéphane Ribojat.
Deux pilotes et deux passagers se font arrêter sur l'aéroport de Punta Cana avec 700 kilos de cocaïne dans une 25 valises à peu près. C'est un flag. Ils sont attrapés, procès, deuxième procès, condamnés à 20 ans. Et ensuite, d'autres personnes vont venir les évader, aller les chercher en République dominicaine pour les faire rentrer en France. Voilà, c'est une multitude d'affaires, comme dans un bon polar, mais qui viennent se greffer les unes par-dessus les autres, comme un millefeuille.
C'est mieux qu'un bon polar, je veux dire, pourquoi ? Parce que tout est vrai.
Oui.
C'est là où c'est complètement dingue. Je précise, Franck Collin, que vous n'êtes pas dans l'avion. Il y a aussi des procès en France, et vous êtes à la base de l'histoire. Ça démarre, l'affaire Air Cocaine, quelques mois plus tôt, dans les boîtes de nuit branchées de Saint-Tropez. Vous mettez des gens en relation les uns avec les autres. Et il y a un premier vol où les gendarmes français sont alertés. Ils sont alertés par quoi ? On est vers Noël 2012. Il y a un Falcon qui se pose sur l'aéroport de Saint-Tropez.
Oui, c'est exact. C'est le 5 décembre. C'est le 5 décembre 2012. Et donc, il se pose sur la mole à Saint-Tropez. Et puis, l'alerte vient après. Donc, les enquêteurs seront mis... au courant de ce vol, quelques semaines après, je dirais.
Il faut raconter ce qu'il y a. Il arrive des Açores, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un seul passager, il a 10 valises de 50 kilos, ce qui fait 500 kilos pour un gars tout seul. Il y a un douanier qui est là, on se demande pourquoi il est là. Et le douanier qui est là ne contrôle rien.
Enfin, ils contrôlent tout. Mais surtout, ce qu'ils contrôlent, c'est les problèmes. Et il n'y en a pas.
Voilà.
Et comme il n'y en a pas, donc il n'y a rien à contrôler.
On apprend que c'est une compagnie de jet privé française qui a alerté la police française. Et les problèmes arrivent avec le troisième vol depuis Punta Cana, en République dominicaine. Et là, Franck Collin, vous parlez d'un autre intervenant de l'affaire. Il s'appelle Nicolas Pisapia. Qui est-il ?
C'est le passager. Et, enfin, c'est aussi le passager. Et c'est celui qui était en relation... de faire en sorte que tout se passe bien au départ, et puisque j'étais à l'arrivée. Mmh. Et puis ça s'est pas bien passé, et puis il a été arrêté, comme vous le savez, sur le tarmac avec les trois autres occupants de l'avion. Mmh. Et donc l'aéronef a été mobilisé, et puis ils ont tous été arrêtés.
Le passager, c'est vous qui l'aviez recruté ?
Ben, disons que c'est un copain, c'était une connaissance, et recruter c'est un grand mot, mais bon, je lui avais proposé.
Ouais.
Et puis il avait accepté.
Vous racontez dans le doc, vous lui présentez l'affaire et on entend la manière dont vous lui présentez l'affaire. Écoutez.
Je lui dis, voilà, il y a un projet qui va se faire, normalement. Et ce projet, c'est d'aller en République dominicaine, prendre du stup et le déposer à Saint-Trope. Et il me dit, putain, c'est quand même costaud, c'est dangereux. Je dis, oui, c'est dangereux. Il y a cet argent à gagner et il y a ce risque à prendre. Tu peux gagner beaucoup, mais tu peux tout perdre. Tu fais ou tu fais pas.
Alors, ce qui me frappe, c'est que là, vous êtes tout gentil dans le studio, extrêmement urbain. Ce qui frappe, c'est vous l'expliquez que c'est dangereux, sans plus, comme s'il s'agissait d'éteindre un incendie ou d'escalader une montagne. Ça aussi, c'est dangereux. Mais il n'y a aucun argument moral. C'est-à-dire, transporter 700 kilos de coke qui peuvent atterrir chez les jeunes ou alimenter la grande délinquance, ça ne vous posait pas de problème.
Disons que c'est bien évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. À ce moment-là, lorsque moi je suis dans cette idée folle de participer à un projet tel quel, j'ai une idée qui est surréaliste, c'est de prendre en considération que j'ai une famille qui est grande, dont je me suis toujours occupé, et il faut que cette famille elle soit à l'abri. Coûte que coûte, peu importe ce que ça coûte, ma vie, un bras, une jambe, peu importe. Et donc, vous savez, quand on fait une erreur, on ne choisit pas l'erreur qu'on fait, on choisit juste de faire une erreur.
Juste un mot pour qu'on sache bien, vous n'êtes pas ensuite revendeur. Les 700 kilos de cocaïne, que serait-il devenu si l'opération s'était bien passée? Des gens seraient venus les prendre et ce n'est pas vous.
J'en sais rien et je ne veux même pas le savoir. C'est-à-dire que mon job à moi, c'est...
Le transport.
Tout simplement.
Les pilotes, c'est vous qui les avez recrutés?
Pas du tout. Moi, le contact que j'ai eu, c'est le broker, celui qu'on appelle le broker, l'intermédiaire, qui est, lui, en relation avec plusieurs sociétés d'aviation, dont le cas échéant SNTHS, qui a été contracté pour ces vols, dont je ne connais ni les dirigeants ni les pilotes. Et puis, mon seul contact à moi, c'était ce broker-là.
Je suis obligé, malheureusement, de sauter des étapes. Je dois dire que c'est absolument passionnant. Et chaque 10 minutes du doc et des épisodes, on se dit « Waouh, mais tout ça est complètement fou ». Donc, je suis obligé de choisir de résumer. Vous avez changé de version. Vous aviez d'abord chargé les pilotes, à la suite de quoi vous les avez dédouanés. J'ai retrouvé un papier.
Non, monsieur, jamais. J'ai jamais chargé les pilotes.
À aucun
moment donné. Ni personne d'ailleurs.
Ah.
Non, pas du tout.
Mediapart, 25 juin 2021, Air Cocaïne, 2. Un acteur clé change de version en appel et dédouane les pilotes. On va pas rentrer dans chaque détail, mais en tout cas, voilà ce que j'ai lu. Alors, ce que j'ai lu sur Mediapart est faux. En tout cas,
il les a réellement dédouanés, mais il les avait déjà dédouanés en premier et ainsi de suite.
Alors, mais mon sujet, c'est pas celui-ci. mon sujet, c'est celui-ci. Vous avez purgé une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Où est-ce que vous en êtes avec la justice?
Alors, j'ai été condamné à 12 ans. Mmh. J'ai purgé à peu près 7 années. Mmh. Donc je suis sorti en liberté conditionnelle qui se terminera en février 2025 et pour l'instant c'est la situation actuelle.
Stéphane Ribojade, vous avez commencé le tournage de ce doc et le projet avant de savoir que Franck Collin serait libéré. Comment ça s'est passé? Vous avez tout réécrit?
Oui, on a énormément questionné tous les intervenants majeurs de cette histoire et puis effectivement on a rencontré Franck ensuite à sa sortie de prison. Mais la chose évidente qui nous a sauté au visage à tous, c'était toute une bande de gens qui n'ont rien à voir avec le trafic international, ni de près ni de loin, mais qui se sont retrouvés.
Je souris parce qu'on dit toujours ça. Chaque fois qu'on arrête des gens, ils disent qu'ils n'ont rien à voir.
Mais en règle générale, il y a quand même... Généralement, dans ce métier-là, il y a des gens qui ont quand même un beau pédigré. Là, en l'occurrence, ils sont tous novices.
C'est une série documentaire qui a coûté cher, parce qu'il y a des Lamborghini, il y a des Falcons, et ça coûte de loin un Falcon.
Oui, c'était surtout compliqué de le prouver. Ouais. Parce que convaincre une compagnie aérienne de prendre un avion pour évoquer l'affaire Air Cocaïne, qui a quand même fait peur à toutes les compagnies aériennes privées.
Question pour vous, Franck Collin. Évidemment, quand vous étiez devant les juges, quand vous étiez interrogé, vous disiez que vous n'avez rien à voir avec ça. C'est normal, c'est la défense de n'importe qui est condamné. Mais désormais, vous dites l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne. On l'a même entendu dans le début. Vous n'avez pas peur que la justice vous rattrape? Alors, surtout quand les juges vont voir la série documentaire.
Ben, pas du tout, et d'autant plus que j'ai un bouquin qui sort et qui s'appelle « J'ai organisé l'affaire Air Cocaïne ». Donc, si vous voulez, devant l'instruction, vous êtes obligé, comme vous l'avez si bien dit, de changer de version. C'est le rôle d'envoyer tout ce qui peut être tordu le plus possible pour passer le plus stupide de la terre devant une justice. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment du procès, je n'apprends rien à la justice parce que quand j'arrive, je me déclare coupable à la hauteur de mes responsabilités. Donc je dis oui, je suis coupable, j'ai organisé. Et donc il n'y a rien de plus qui peut arriver à l'heure d'aujourd'hui puisque tout a été dit.
C'est absolument passionnant, c'est à voir sur Canal+, ce soir à 21h, 4 épisodes de 52 minutes et dès maintenant sur MyCanal, ça s'appelle Air Cocaïne, l'histoire vraie d'une affaire stupéfiante. Un grand merci Stéphane Ribojade, vous êtes le réalisateur. Merci Franck Collin, vous êtes l'organisateur. On a rarement l'organisateur d'un documentaire. Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce studio. Culture Média continue évidemment, Anissa.
Oui, juste après les infos de 10h avec votre invité.
Oui, notre invité c'est l'humoriste Manu Payette pour son nouveau One Man Show Emmanuel 2.
Et puis les indispensables, Stéphanie Loire viendra nous parler d'un nouveau groupe de rock new-yorkais et Sébastien Bordenave, lui, a choisi une BD qui évoque l'histoire d'un couple de deux monstres sacrés du théâtre français, Jean Marais et Jean Cocteau.
Lui aussi, c'est un monstre sacré, mais à lui tout seul, c'est Jean-Luc Lemoyne. C'est sa session de rattrapage. À tout de suite.